bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy!
Allô, allô, bienvenue au Lobster 55.0. C'est fait, la première neige est tombée. Elle ne devrait pas rester, mais c'est en route, l'hiver s'en vient. Moi, je reviens du chalet au Saguenay où la neige n'en était pas à sa première apparition. J'ai été passer 5 jours au chalet et quasiment tous les matins, une petite neige avait recouvert le sol. Mais ça fondait durant la journée quand le soleil se pointait le bout du nez. Et qu'est-ce que j'ai fait au chalet? Je me suis amusé en forêt. Depuis quelques années, je défriche à la hache un sentier sur le bord de la rivière qui est devant notre chalet. Et ce week-end, je me suis enfin rendu où je voulais aller. Mon chemin se connecte maintenant à un deuxième sentier qui, lui, termine de nous amener aux pieds de chute qui sont immenses. Je ne sais pas la hauteur, mais sûrement 300 mètres de dénivelé. Les chutes ont comme 3 paliers de haut. C'est tellement haut qu'avec mon vertige, je suis incapable d'aller sur le bord. Donc, même si mon père me dit que je peux continuer mon chemin sur le côté droit de la rivière, je ne pourrais pas monter par là, j'ai trop le vertige. Lui, quand il était plus jeune, il me disait qu'il montait et faisait des pêches incroyables tout le long de la rivière. Il revenait avec plein de belles truites mouchetées en pêchant dans les divers bassins que créent ses chutes en descendant. Mais bon, ce ne sera pas pour moi. Moi, je vais monter sur le dessus de la montagne, mais par un creux moins à pic. Donc voilà, mon premier sentier est complet. Ça prend environ 1h20 faire l'aller-retour. Donc l'année prochaine, je dois choisir une nouvelle direction pour continuer. J'en ai parlé avec mon papa et il m'a montré par où je pourrais partir. Le nouvel objectif va être de monter sur le dessus des montagnes. Donc fini de suivre la rivière. Prochain coup, je prends de la hauteur. L'objectif derrière tout ça est simple, c'est d'avoir un long sentier qui nous permet de marcher en forêt. Je vais essayer de faire une boucle, j'imagine. Si je monte sur le dessus de la montagne, je peux revenir vers notre lot à bois et redescendre à notre chalet. Mais là, ça devrait me prendre encore quelques années. On parle de plusieurs kilomètres. Et pour ne pas me perdre, j'utilise un ruban rouge pour baliser le chemin. Car je suis en pleine forêt et si je monte sur la montagne, je vais devoir marquer mon chemin car il est plus facile de se perdre quand on ne suit pas un cours d'eau. Heureusement, quand je fais mon chemin, je ne suis pas encore tombé sur un ours. C'est ma plus grosse crainte. Il ne m'est jamais arrivé de rencontrer d'ours, sauf une fois. C'était l'été, quand j'étais plus jeune, 12 ou 13 ans. Je passais une partie de mes vacances chez ma grand-mère, qui avait la maison en face de notre chalet. Et je passais mon temps en forêt. Et une fois, dans le bout d'un champ, à mon grand-père, j'avais aperçu un ours. J'avais fui, et lui aussi. Donc, j'y pense pas trop, car c'est pas la même chose de voir un ours au zoo que dans la forêt quand t'es à pied et qu'il n'y a rien qui nous sépare. L'ours court 2 à 3 fois plus vite que nous, monte aux arbres et n'a pas peur de traverser la rivière. Donc, c'est plutôt difficile de fuir s'il décide de nous manger. Je me suis toujours dit que je me cacherais derrière un arbre s'il m'attaquait et que j'essaierais de lui donner un bon coup sur le nez avec ma hache. C'est mon plan. Mais bon, les ours semblent avoir aussi peur que nous pouvons avoir peur d'eux. Donc, j'espère que ça arrivera jamais. Donc, on écoute un petit peu de musique, puis au retour, je vous raconte une histoire d'ours que mon père m'a racontée.
Scene. Everyone is waiting. Yeah.
On vient d'écouter un petit peu de In Flame avec la chanson Rope. Ça a été suivi de Sign On for a Sequel du groupe Aviator. Avant la pause, je parlais d'ours. Et je voulais terminer mes histoires d'animaux avec ce que mon père m'a déjà raconté. Une histoire sur mon grand-père qui travaillait dans le bois. Mon grand-père était bûcheron et une fois, avec la personne avec qui ils étaient tombés sur un bébé ours perdu en forêt. Et au lieu de se sauver ou de pas s'en occuper, ce que moi j'aurais fait, il l'avait attrapé, il l'avait mis dans un sac à dos et l'avait ramené à la maison. Une bonne idée. Moi, d'après moi, la seule raison pourquoi un ours n'hésiterait pas à nous attaquer, c'est probablement si tu pars avec son bébé. Donc, j'imagine mon grand-père avec un bébé ours qui crie dans son sac à dos et la mère qui rôde probablement pas loin. Une bonne idée. Si vous vous demandez ce qui est arrivé à l'ours, de mémoire, je pense qu'ils l'ont enfermé dans la grange et ont appelé le zoo de Saint-Félicien qui est venu chercher. Là, des ours, ça fait quelques années qu'on n'en a pas vu au chalet. On voit plus des orignaux que des ours. Eux, ils ne nous font pas peur. Les orignaux utilisent mon sentier de temps en temps et débouchent au chalet. L'année passée, on avait arrivé deux jeunes orignaux de 2 ans, des jumeaux. On les a regardés et posés tout le long qui passait derrière le chalet. On a aussi du chevreuil chez ma tante qui habite pas loin. Elle les nourrit avec des pommes et on a pu les voir plusieurs fois dans son champ. Et sinon, il y a du lynx aussi, un gros chat qui chasse dans nos forêts. On voit ses traces de temps en temps, mais je ne l'ai jamais aperçu. Voilà, fini pour mes histoires d'animaux au chalet. Durant ma visite, j'ai aussi ramassé des pommes de pommiers sauvages qui donnent de bonnes pommes. C'est en écoutant un podcast d'agriculture qui se nomme « Mange patate » que l'une des animatrices parlait avec, je crois, la personne qui a pépinière ancestrale. Et elle disait qu'à l'automne, c'était bien de ramasser les pommes de pommiers qu'on croise sur notre chemin et qui ont des pommes qui goûtent bon. Que ces pommiers, qui ne sont pas des variétés connues comme la McIntosh, Cortland ou autres, donnent souvent des meilleures pommes, mais qui parfois sont moins jolies. Car évidemment, ce qu'on trouve à l'épicerie, c'est des jolies pommes rondes, mais parfois, ce choix de la pomme parfaite est fait au détriment du goût. Et dans l'émission que j'écoutais, il disait que les pommiers de nos grands-parents ou arrière-grands-parents donnaient souvent des pommes avec des goûts qui sont bien meilleurs que ce que l'on trouve en épicerie. Donc, durant ma visite au chalet, j'ai été avec mon papa ramasser des pommes de 3 pommiers qu'on trouve sur le bord du chemin et d'un pommetier qui devrait donner des bonnes petites pommes pour faire de la gelée. J'ai évidemment trouvé plus de pommiers que ça en bord de forêt, mais on a choisi seulement les pommes qui goûtaient bon et qui avaient des gros courants rouges dedans, qui sont délicieux. Et là, j'ai déjà ouvert les pommes, j'ai ramassé les pépins et je vais les semer au printemps. Partir un pommier à la graine est vraiment facile, ça se part comme rien. Et le plan derrière tout ça est d'avoir des tonnes de pommiers au chalet dans quelques années. On a déjà 8 ou 10 pommiers de marque connue, mais là, je me concentre sur les pommiers indigènes. En passant, si vous voulez trouver des bonnes pommes, souvent, c'est à l'église du village qu'il faut aller voir. Le curé avait toujours 3-4 pommiers sur son terrain et il ne vous tiendra sûrement pas compte si vous ramassez 1 ou 2 pommes qui sont tombées par terre. Voilà, on écoute encore un peu de musique et au retour, la suite du Lobster 55.0.
Vive la Bretagne, tout le monde considère qu'il n'y a personne plus heureux sur terre. Quelle belle richesse, qu'une bonne paire de bras. On est canaillet, ou bien on est fort. We'll be right back.
Bonjour! Je devais faire jouer deux chansons en ligne avant de réintervenir, mais là, je viens de voir qu'il y a une nouvelle chanson du groupe Power Wolf qui vient de sortir le 1er novembre 2019. Une chanson que j'ai jamais écoutée, donc on l'a fait jouer sur le Lobster 55. Et au retour, je vous donne mes commentaires. Donc la chanson Kiss of the Cobra King, on l'écoute. Est-ce que vous avez aimé? Moi, oui. La musique est bonne, ça sonne bien, mais avec la vidéo, c'est encore meilleur. J'ai essayé de vous le faire jouer en vidéo, mais dans les podcasts audio, ça passe toujours mal. Mais on peut quand même dire qu'on reconnaît bien que c'est du Power Wolf, c'est un son que moi j'aime. Les vidéos de ce groupe sont toujours théâtrales et bien faites, et celui-là est magnifique. Dans la vidéo, on y voit le serpent, la pomme qu'on essaie d'offrir à une jeune femme. Toutes les références au paradis d'Adam et Ève sont là. Le vidéo, lui, se termine avec tout le monde assis, comme dans le tableau de Léonard de Vinci, la dernière scène. Tu as le chanteur dans le milieu avec ses 12 apôtres autour de lui, à la différence que lui n'a pas que des hommes autour. Il y a aussi de jolis apôtres dans ce tableau de Powerwolf. Donc, c'est à voir en vidéo. D'après ce que j'ai lu, cette chanson était sortie en 2005. Ils l'ont réécrit et réenregistré pour un coffret 15e anniversaire qui est à venir. Voilà, une belle nouveauté. Sinon, aujourd'hui, journée où j'enregistre Lobster, on est le 11 novembre 2019, c'est le jour du souvenir. Et oui, je suis en congé. Pour les employés de Desjardins, c'est un férié. Donc, je végète à la maison en mangeant le pâté chinois que j'ai fait hier. Donc, journée tranquille. Je travaille aussi sur une grosse toile que j'avais commencée depuis un bout de temps. Ça m'a pogné ce week-end, j'avais le goût de peindre. En gros, le principe de la toile est simple. J'ai fait un fond en collage de vieilles BD de super-héros. On voit Hulk, Superman, Iron Man et tous ces héros que je ne connais seulement que de nom, car j'écoute pas vraiment les films de super-héros. Donc ça, c'est mon fond. Et dans le milieu de la toile, il y a un gros chevalet sur lequel j'ai peint une deuxième toile. Et dans cette toile, il y a un paysage dans le style de mes autres toiles. C'est un gros taureau qui est assis et qui boit du vin. C'est spécial. Quand j'ai ressorti cette toile, j'ai failli la scraper. Je voulais la recouvrir de plâtre et tout recommencer, mais mon garçon m'a dit que non, de la finir, qu'il l'aimait. Donc je vais la terminer, et plus elle avance, plus elle est belle, donc c'était une bonne idée de la continuer. Pour revenir à notre jour du souvenir, j'ai été obligé d'aller voir sur internet c'était quoi au juste. Je savais à peu près c'était quoi, mais crime, un jour du souvenir, si tu te souviens pas du pourquoi, ça part mal. Donc, précisément, le jour du souvenir est là pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ou autre guerre. Bon, c'est à peu près ça que je pensais. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus son symbole, ce que les gens s'accrochent sur le torse pour le commémorer, qui m'a fait sursauter. C'est le bleuet. Quoi, le bleuet? Oui, j'étais surpris de lire ça. En France, le bleuet, également présent sur les champs de bataille et dont la couleur rappelle les uniformes des poilus, représente traditionnellement le sacrifice des soldats lors du premier conflit mondial. Ici, on ne parle pas du petit bleuet, du Saguenay ou du lac, non, mais de la fleur, une plante qui donne une belle petite fleur bleue. Donc, il n'y a pas que le coquelicot rouge qui est le symbole de cette fête. Ici, au Canada, on voit probablement juste des coquelicots, mais en France, il semble qu'il y ait aussi le bleuet. Donc voilà, vous ne pourrez pas dire qu'on n'apprend rien dans le Lobster.
Blackula is back. All new. All powerful. Blackula, the Black Prince of Shadows, rises from his grave to stalk the earth again in the all-new motion picture chiller, Scream, Blackula, Scream. Blackula returns, quenching his thirst for blood in a death trap for his enemies. Blackula, more horrifying than Dracula, screaming for revenge against a voodoo cult of evil. See Scream, Blackula, Scream, all new, rated PG, starring William Marshall, Don Mitchell, and Pam Grier, the sensuous godmother of coffee. You were terrified at Blackula. Now the Prince of Shadows returns in Scream, Blackula, Scream!
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel.
Bienvenue à votre chronique
« Au-delà des profondeurs des abysses ».
Et oui, j'ai lu un article intéressant cette semaine qui se nomme « Les secrets des profondeurs terrestres ». D'immenses océans, de la vie microbienne, du méthane à l'infini, des diamants d'une force inouïe. Il y a dans le sous-sol de la Terre encore plein de choses à découvrir. Fin octobre, des centaines de chercheurs de partout dans le monde se sont réunis en congrès à Washington pour faire le point sur les derniers avancements de cet important projet scientifique qui se nomme Deep Carbon Observatory. Donc, en gros, c'est des gens qui analysent et font des recherches sur le sous-sol de la Terre. Je vous passe les détails, il y a un gros rapport sur le site du groupe. Mais on apprend que dans le sous-sol de la Terre, il y a plein de choses à découvrir. Justement, un des scientifiques du groupe, Gandalf Leblanc, clôturait la conférence en parlant de ce qu'il avait trouvé dans les profondeurs.
« A Balrog, a demon of the ancient world. This foe is beyond Ymir. Run !»
Bon, mais à part un Balrog, qu'est-ce qu'on trouve? De l'eau et des diamants. À plus de 400 km sous la surface de la Terre se trouve une quantité d'eau supérieure à celle qui existe à la surface. Cet océan souterrain qui se trouve emprisonné à des pressions immenses dans des roches a été détecté grâce à l'analyse de diamants par des chercheurs du Deep Carbon Observatory. Depuis 2014, les propriétés de ces diamants des profondeurs ont d'ailleurs été testées, ce qui a permis de démontrer plusieurs applications potentielles, comme des scies industrielles grâce à leur résistance à l'abrasion supérieure selon certains critères. Certains de ces diamants de l'hydrogéosphère, qui remontent des profondeurs avec du magma volcanique, ont été créés il y a seulement quelques centaines de millions d'années, ce qui permet d'évaluer la quantité de carbone qui voyage des sédiments des fonds océaniques jusqu'au tréfonds de la planète par les failles sous-marines. Les microbes des profondeurs jouent un rôle crucial dans le transport de ce carbone qui est alors définitivement mis hors d'état de nuire. Un chiffre intéressant, 70%, c'est le pourcentage des micro-organismes de la Terre qui vivent sous la surface. Les intraterrestres. L'été dernier, des géologues de l'Université de Toronto ont annoncé avoir trouvé des microbes dans de l'eau emprisonnée depuis des milliards d'années, à 3 km de profondeur. Cette découverte dans une mine de Timmins en Ontario a été annoncée dans le Geomicrobiology Journal. L'une des conclusions les plus importantes qu'on peut tirer est que la vie sur Terre pourrait être née sous la surface plutôt qu'y avoir été amenée par des comètes. La vie est apparue sur Terre alors qu'elle était très inhospitalière, avec de fréquents bombardements. A souligné en entrevue Robert Hazen, minéralogiste et astrobiologiste à l'Institut de Washington, qui est l'un des fondateurs du DCO. La vie souterraine à base de chimiosynthèse plutôt que de photosynthèse a au moins formé un refuge durant ces bombardements intenses de météorites. Un des géologistes a noté à la même occasion qu'aucune limite de profondeur n'a été observée pour la vie souterraine. La seule limite, c'est la température, 130 degrés Celsius. Si ça se trouve, on va trouver des microbes à 30 km sous la surface. Les microbes des profondeurs à Timmins sont notables parce qu'ils vivent depuis des milliards d'années emprisonnés dans de l'eau coupée de la surface. L'une des séances du congrès du DCO portait sur la possibilité que de tels microbes souterrains existent sur des satellites des planètes géantes de notre système solaire.
Les minéraux de l'homme.
Le léo-zillardite est un nouveau minerai identifié en 2016 dans une mine d'uranium et de cuivre en Utah. Il fait partie des minéraux créés par l'activité humaine. Il a été nommé en l'honneur d'un physicien nucléaire hongrois qui a travaillé sur la bombe atomique. En 2017, des chercheurs associés au DCO ont illustré d'une nouvelle manière l'impact de l'homme sur la planète. Dans une revue de American Mineralogist, des géologues de l'Université du Maine et de celle d'Arizona ont estimé que 208 des 5200 minéraux reconnus par l'association minéralogique avaient été créés par l'homme, pour la plupart en raison des mines. Les plus anciens remontent au travail du bronze en Égypte et à des épaves phéniciennes, notamment au large de la Tunisie. D'autres ont été créés sur les murs d'aluminerie ou dans des tuyaux de géothermie. Les chercheurs notent que les deux tiers de ces 5200 minéraux sont apparus il y a 2 milliards d'années, lors de la grande oxydation, quand la Terre a connu une rapide augmentation de son taux d'oxygène. L'atmosphère ne contenait auparavant presque pas d'oxygène, 2 à 4 contre 21 aujourd'hui, ce qui a causé l'extinction de 99 des espèces bactériennes. Les forages les plus profonds. En fin d'article, il nous parle de ces forages de plus en plus profonds, mais rien d'impressionnant dans cet article. On termine en reparlant du trou le plus profond jamais creusé. J'en avais déjà parlé dans un autre Lobster. C'est un trou en Russie qui est profond de 12,3 km et qui a pris 29 ans à creuser. Et finalement, les sons des profondeurs. On termine en écoutant ce que les scientifiques de la DCO ont entendu en utilisant des appareils ultra perfectionnés dans les entrailles de la Terre. Audio, sismomètre, vibraphone et Walkman, voici ce que ces instruments nous ont remonté des entrailles de la Terre.
Allô, c'est Jojo! Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Ensoleillé ou nuageux? Quel est ton état d'âme? Est-ce une bonne journée pour tomber en amour, voyager ou signer un contrat? Qu'as-tu à prendre et quels sont tes choix? Appelle-moi au 1-976-JOJO sur ma ligne d'astrologie personnalisée basée sur ton thème natal à toi. L'astrologie est une science de sagesse et de prévention, alors ne sois plus victime de tes émotions. Les étoiles sont là pour te guider.
T'éclairer vers ton bonheur. Je t'aime. 1-976-5-6-5-6.
The purge of God banished. set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software, flash the message, something's out there. Floating in the summer sky, 99 red balloons go boom.
Lièvre pour ce soir, ce qui commence à faire faim.
Je me demande comment vous faites. Moi, je serais incapable de trouver de quoi manger dans la forêt.
Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles. Là, pour le coup, hop, la femelle lièvre.
La hase.
De quoi?
La femelle lièvre, c'est la hase.
Non, moi, je connais que le cri.
Vous les voyez, vous?
Non!
Ah bah, tournez vers là-bas, c'est sûr. Moi non plus, je vois rien.
Passez la tête.
Passez la tête? Pour me prendre une flèche dedans? Non, merci.
On n'entend plus rien, hein. Si ça se trouve, ils ont foutu le camp.
Si ça se trouve? Alors pour nous sortir de là, il va falloir un peu plus solide que du si ça se trouve.
Ils sont encore là, ces cons.
On va pas rester plantés là comme des radis. Si y a un autre groupe qui arrive par là, on est marrant des deux côtés.
Et si on faisait le coup du bouclier humain?
Quel coup?
Par exemple, sire, Léo Dagan et moi, on fait semblant de vous prendre en otage. On vous met une dague sous le cou et on traverse le camp adverse en gueulant: bougez pas, on bute le roi!
Hé hey, quelles sont nos chances si on fonce?
Si on fonce où ça?
Droit devant, en plein dans leur tronche. On sait même pas combien ils sont.
Ah oui, mais nous on est 3, enfin 2,5. Alors s'ils sont 10, on est cuit.
On pourrait balancer de la caillasse vers là-bas. Comme ça ils se disent qu'on y est et nous on part dans l'autre sens.
Ah non, s'il vous plaît, hein, laissez tomber les combinats de ronds.
Non, vous allez voir.
Pas par là.
Putain, plein dans sa mouille.
Mais vous êtes complètement con.
Vous allez peut-être me dire que maintenant ils croient qu'on est là-bas.
Non mais maintenant il faut se tirer dans l'autre sens.
Ah bah un peu oui, surtout que s'ils ont vu d'où venait la pierre, ils sont en train de radiner droit sur nous.
Ouais mais nous on change de coin, et quand ils arrivent là ils sont pinés, y'a personne. Attendez, je vais les attirer ailleurs. Merde, j'ai plus de pierre, qu'est-ce qu'on fait?
Bah attendez, je vais vous rendre la vôtre.
Oh, mais j'ai failli me la prendre!
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir. Non! Il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non?
C'est pas possible de rester coincé comme ça, je vais devenir dingue, moi. Allez, on fonce dans le tas, tant pis.
Dans une heure, la nuit tombe, là il y aura d'autres solutions. Déjà, ils seront obligés d'allumer leurs torches, on verra enfin où ils sont.
Sinon, on fait un tunnel jusqu'à notre campement. Les Odagans et moi, on creuse pendant que vous balancez de la caillasse dans l'autre sens pour les éloigner du chantier.
Chut! Ils sont juste à côté, ces cons-là.
Merde, j'ai entendu mon plan, c'est foutu.
Ah, ferme!
Bougez pas!
Mais arrêtez, bon sang!
Mais là, on va se faire tuer, là!
Animaux de la forêt!
Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh!
Attendez!
Oh! 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 Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh non, mais arrêtez là! On va se faire repérer là! Oh putain!
Arrêtez maintenant là!
On construit un barrage. Après, on lance de la caillasse de l'autre côté de la rivière pour faire croire aux autres qu'on a traversé dans l'autre sens. Une fois qu'ils sont au milieu, on casse le barrage et on les noie.
C'est drôlement ingénieux, hein?
Ouais, le seul problème, c'est qu'on a passé 4 semaines à construire un barrage, ça fait un peu mal au cul de le détruire. Ou sinon, ce qu'on peut faire, on imite un chevreuil.
La demande spéciale de Martin.
save me, Los Angeles? When will you save me, Los Angeles?